Bonjour à tous. Grand invité de la Grande Table des Idées aujourd'hui, l'anthropologue Philippe Descola. Il poursuit sa réflexion autour de la définition même de l'idée de nature dans les natures en question qui paraît chez Odile Jacob. Une redéfinition urgente qui pourrait peut-être nous aider à penser bien autrement ce qui se joue actuellement, la crise du climat ou celle encore du réchauffement climatique, ainsi que la question de la biodiversité. On en parlera avec lui dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55. Mais d'abord, un lieu unique pour un grand bain artistique. La piscine de Roubaix vient de rouvrir, agrandie de 1000 m² supplémentaires, enrichie de près d'un millier d'œuvres. Pour nous en parler, le directeur et conservateur du musée roubaisien, Bruno Godichon. Et puis, pour l'occasion, aussi l'artiste Hervé Di Rosa, la piscine de Roubaix qui accueille 5 expositions en ce moment, Picasso, Giacometti et lui notamment. Il sera donc avec nous dans la première partie de la Grande Table.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Avant d'oublier, un rendez-vous à vous indiquer, soirée Armistice ce soir au studio 104 de la Maison de la Radio dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre avec des textes de Boualem Sansal, de Daniel Salnave, de François Cheng ou encore de Didier Deninx, lus par des comédiens de la Comédie Française. C'est à 20h et c'est en public. Allez hop, maintenant on plonge dans un grand bain artistique avec à mes côtés Isabelle Manca, journaliste spécialisée art au magazine L'Œil. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec moi. Ouvert en 2001, le musée de Roubaix a gardé le décor, la structure de l'ancienne piscine art déco qu'il occupe, construite au tournant des années 30 par l'architecte lillois Albert Behr. Un jardin et un bâtiment qui abritent le bassin, éclairé de vitraux, un lieu métamorphosé dans les années 90 en musée des Beaux-Arts par l'architecte Jean-Paul Philippon, inauguré en 2001.
De l'extérieur, c'est un musée classique, briques rouges couleur locale, du verre, du béton, du métal, un petit jardin à traverser. Une fois passées les caisses à l'intérieur, un panneau indique « bassin » et l'oreille est attirée par de l'eau qui coule. C'est une tête de Neptune qui projette un puissant jet d'eau dans un bassin de 50 mètres. Oh, pas profond comme avant, non, juste une lame d'eau. Quelle beauté! Vous êtes dans une des plus somptueuses piscines art déco de France, incroyablement réhabilitée. La lumière naturelle entre par deux vitraux en éventail de couleur rouge-orangé, comme le soleil levant et couchant. Et le long du bassin que vous surplombez, des sculptures décoratives des 19e et 20e siècles ont été disposées, naïades, paysans. C'est vrai ce que dit Didier, 38 ans. On connaît cette beauté-là.
Je retrouve un peu ce que j'avais ressenti lorsque j'ai découvert le musée d'Orsay à Paris, où effectivement le lieu, au départ, est plus important que les œuvres. Et c'est une fois qu'on est adapté au lieu qu'on regarde les œuvres.
Voilà, la balade était signée Vincent Josse en 2001 lors de l'inauguration de la piscine de Roubaix. Bonjour Bruno Godichon.
Bonjour.
Bonjour. Après 2 ans de travaux fermés, 6 mois, le musée rouvre donc enfin ses portes. Aujourd'hui, agrandi, pourquoi avoir choisi de pousser les murs ?
Parce que les collections étaient là et qu'elles demandaient plus de place, parce que on a bénéficié de générosité à la fois de familles d'artistes, d'institutions nationales, et que l'idée était de montrer plus et mieux aux visiteurs et de mieux les accueillir également.
Alors on y retrouve les collections de textiles qui font partie de l'histoire du musée, son fonds ethnographique sur l'industrie du textile, un espace dédié à l'histoire de Roubaix, un fonds beaux-arts avec des œuvres du 19e et du 20e et surtout les fameuses sculptures de la piscine de Rodin à Camille Claudel que vous avez contribué, Bruno Godichon, à faire redécouvrir l'artiste et ses sculptures dès les années 70. Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler à la Grande Table dans une émission d'avril 2017 et j'invite les auditeurs s'il le souhaite, à la réécouter. Question de Isabelle Manca du magazine L'Œil pour vous, Bruno Godichon, peut-être sur ce lieu atypique que vous avez revisité vous aussi, Isabelle.
C'est vrai qu'à chaque fois qu'on retourne à la piscine, on est vraiment surpris par ce lieu qui est vraiment magique et très atypique. Et en même temps, on n'imagine pas les collections ailleurs. Mais j'imagine que c'était quand même un sacré pari il y a bientôt 30 ans de se dire que ce lieu allait devenir un des musées les plus visités de France.
Paris muséal et architectural en plus.
Oui, alors le succès, le nombre de visiteurs, ça c'était effectivement l'inconnu. L'histoire des musées en France, c'est quand même très souvent la réutilisation d'espaces qui n'étaient pas prévus pour être des musées auparavant. L'exemple du Louvre est peut-être l'exemple le plus célèbre, et la gare d'Orsay évidemment. Et d'autant que la gare d'Orsay a au moins un lien de parenté avec la piscine, c'est que nous avons le même architecte. Jean-Paul Philippon, qui a fait la transformation, faisait partie du groupement d'architectes qui a dessiné le musée d'Orsay. C'était surtout un lieu très présente dans l'imaginaire et la mémoire populaire à Roubaix, qui est une ville très marquée par la fracture sociale, comme toutes les villes d'industrie de main-d'œuvre. Et donc, c'était pour nous la garantie que le lieu était déjà présent si plus dans le quotidien, parce que fermé depuis un certain temps, mais quand même dans la mémoire, et qu'on abolissait une barrière qui est celle de l'entrée au musée pour être un musée. Tandis que là, les gens, évidemment, les habitants avaient envie de retrouver la piscine de leurs souvenirs d'enfance, qui sont quand même souvent, plus on s'en éloigne, des bons souvenirs.
Pour l'occasion, je le disais, la piscine de Roubaix accueille donc 5 expositions, l'une de Picasso, Giacometti aussi, et puis surtout Le Monde d'Hervé Di Rosa, notre deuxième invité, le peintre d'origine sétoise qui expose l'œuvre au Monde jusqu'au 20 janvier. Vous aimez bien quand je parle de vous, comme ça en disant « il », mais je vais surtout vous saluer. Maintenant, Hervé Di Rosa, bonjour.
Bonjour, merci.
Artiste figuratif, concepteur de l'art modeste, non comme un genre, mais comme un regard différent sur les choses. Vous êtes surtout un artiste, artisan, voyageur. Qu'est-ce que vous avez choisi de présenter là, ici, à cette piscine de Roubaix? Il y a de la céramique, notamment, qui fait écho, qui se retrouve là aussi en miroir, des décennies après, avec les œuvres qui seront présentées au musée La Piscine de Roubaix.
Vous savez, c'est surtout... Alors, je vais pas faire le lèche-botte, mais l'invitation de Bruno et le travail de Sylvette Godichon, qui est la commissaire de cette exposition, et qui a vu le travail que j'avais commencé il y a 5 ans à côté de Lisbonne, à Sintra, à l'usine La Viuva Lamego, qui est une fabrique historique de céramique d'azulejou, vous savez, ces grandes façades. C'est une fabrique qui a ouvert en 1849, donc il y avait tous les pigments, toute l'histoire, l'ingénierie, des calques aussi de toutes leurs décorations, etc. Et donc je travaille donc là-bas, c'est la 19e étape de ce fameux tour du monde que j'ai entrepris au début des années 90. Et Sylvette Godichon a été intéressée pour faire voir en exclusivité l'entièreté de ce travail qui se compose de vases aussi, mais surtout de grands panneaux. Et comme elle a voulu aussi le remettre dans le contexte de ce projet, programme que j'ai commencé à la fin des années 80, c'est-à-dire sortir de l'atelier, avoir un atelier nomade, comprendre, pas aller comme les peintres du 19e justement, qui avaient quand même un fond colonial certain pour aller dessiner les moukers en Angelaba. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller travailler comment ailleurs on fabrique des images et des objets. Et donc, je suis parti au Ghana, en Bulgarie, au Vietnam, au Mexique, etc., travailler avec les artisans. Et donc, Sylvette a choisi quelques pièces, pas mal parfois, de chacune de ces 18 étapes précédant l'étape de Lisbonne qui est présentée en son entièreté.
Apprendre aussi ces techniques vernaculaires, et c'est là aussi où votre travail, Hervé Di Rosa, trouve sa place à la piscine de Roubaix, c'est qu'il y a quand même en commun, Isabelle Manca, des savoir-faire qui se retrouvent. Et ça, c'est aussi une des particularités de la piscine de Roubaix.
C'est vrai que la piscine est peut-être le seul, ou en tout cas un des très rares musées en France, qui marie autant les techniques et qui abolit autant les cloisons, qui sont encore très fortes, même si on est dans une ère de postmodernité où on tend un petit peu à les dissoudre, mais entre les beaux-arts, les arts appliqués. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer votre travail présenté ailleurs qu'à la piscine, encore une fois.
D'ailleurs, Bobo ne m'a pas encore proposé.
Voilà. Mais on sent qu'il y a une même communauté d'esprit.
Je m'excuse de vous couper, surtout l'intérêt de la piscine. C'est vrai que je suis très heureux d'exposer là-bas parce que c'est un musée qui m'attire. Moi-même, ayant ouvert le Musée international des arts modestes à 7, il y a 18 ans, un an avant, un an avant vous, c'est cette transversalité. Et c'est cette approche que le néophyte peut avoir. Dans ce cas-là, de l'art du 19e et du début du 20e, surtout de la sculpture. On n'a pas à être un grand connaisseur pour arriver à être face à des chefs-d'œuvre, et on peut comparer avec ce qu'est aussi le volume dans l'art vernaculaire, avec les fameuses céramiques du fils de Gauguin, que je ne connaissais pas. Enfin, j'ai fait des découvertes formidables dans ce musée, et c'est vrai que c'est... Pourtant, je ne suis pas un grand fanatique du musée d'Orsay, ni de cette période de l'histoire de l'art. Mais là, je dois dire que c'était déjà un de mes musées favoris, donc c'était vraiment un grand plaisir de participer aussi à cette transversalité, parce que ce travail que Sylvette Godichon a choisi, c'était vraiment en relation aussi avec l'idée de ville-monde qu'est Roubaix. C'est une ville avec un grand taux d'émigrés, comme Sète d'ailleurs, on y en est tous des mélangés. Et faire voir une œuvre, ce que je fais, c'est essayer de prouver que le métissage et le mélange donnent de meilleurs résultats que de rester entre soi. Alors, voilà.
Petite parenthèse avec vous, Bruno Godichon, qui était Mamadou de Roubaix?
Alors Mamadou Ndiaye est un Sénégalais qui est arrivé à Roubaix pour créer un club de boxe dans les années 30 et qui en fait avait un talent de comment dire, de rebouteux au départ, mais en fait un talent inné de chiropracteur, et qui a eu un succès formidable. Il avait ouvert un cabinet dans le quartier du Pil, qui est historiquement un des quartiers très très populaires de Roubaix, qui est elle-même une ville extrêmement populaire. Et puis il avait parmi sa patientèle un membre de la famille royale de Belgique qui lui avait offert un vitrail qui est presque un vitrail religieux. Enfin, il devient presque un saint avec ce vitrail qui, après la mort de Mamadou, avait disparu et qu'un ami du musée a retrouvé. Et du coup, aujourd'hui, Mamadou Ndiaye est présente à la fois pour lui-même dans le musée, dans la galerie des illustres, mais il porte sur ses épaules tout le poids de l'immigration qui est l'âme de la ville. Roubaix, c'est 8000 habitants en 1800, 125000 en 1900. C'est une ville qui ne s'est constituée que sur des couches d'immigration successives. Et le musée tenait à affirmer cette identité de la ville, qu'on retrouve également quand on visite le musée, à la fois dans les visiteurs et dans l'équipe, qui est aussi à l'image de l'arc-en-ciel roubaisien.
Voilà, c'est une des pièces phares aujourd'hui du musée, qui illustre cette histoire de la ville et celle de ses nouveaux arrivants, cette mosaïque qui s'est constituée. Juste affirmer quand même cette patte, cette marque de fabrique aussi de la piscine de Roubaix qu'on commençait à évoquer avec Hervé Di Rosa, sur ce mélange de savoir-faire, ce musée du savoir-faire entre l'art et l'artisanat, jusque dans la sculpture d'ailleurs. Mmh. Ça, c'est quand même une des particularités de ce lieu.
En fait, pendant tout le 19e siècle, cette ville a regardé vers le modèle anglo-saxon, parce que pour les industriels, ce qu'on dit les entrepreneurs de Roubaix à l'époque, l'Angleterre avait un train d'avance. Or, le monde anglo-saxon n'a pas ce même regard différencié entre beaux-arts et arts appliqués. Un musée comme le Victorian Albert Museum à Londres montre bien qu'on peut avoir un Louvre de tous les savoir-faire. Et cette réflexion, ce regard sans a priori, a beaucoup marqué le musée à ses débuts, notamment au début du XXe siècle. Et on a été ravis de prolonger cette idée. Voilà. Et c'est vrai que le travail d'Hervé, parce qu'il a cette dimension innée de regard vers les autres, de partage, correspondait parfaitement au feu d'artifice qu'on voulait pour la réouverture.
Isabelle Mancard, du magazine L'Œil, sur ces croisements de tendances, de mouvements, d'époques, de couleurs.
Et même vous parliez des expositions, c'est vrai que c'est une des particularités qu'on en a la chance d'aller souvent à la piscine pour suivre les expositions, comme on le fait depuis maintenant bientôt 20 ans, c'est qu'à chaque fois on a des vraies découvertes avec cet équilibre entre des expositions, on va dire, blockbuster, Picasso, Chagall, etc., qui devient un peu une marque de fabrique de la maison, et en même temps des découvertes, on parlait tout à l'heure du fils de Gauguin, qui avait été, je pense, une vraie découverte pour beaucoup de monde. Et il y a donc un positionnement assez courageux, je trouve, sur le choix des artistes qu'on va mettre en avant. Est-ce que ça, ça a été un pari un peu difficile, en tout cas des choix difficiles à porter, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le monde des expositions, on va chercher plus de rentabilité. Je vois que ça fait sourire quelqu'un. Mais ça demande quand même un courage de porter des artistes qui sont peu connus ou moins connus aujourd'hui, et on sent que c'est quand même une des signatures aussi de la piscine.
En fait, on fait des bonnes expositions quand on est heureux de les faire. Et chacune de ces expositions, de la plus modeste à la plus importante pour nous, ça a été l'occasion de rencontres, à la fois avec des artistes, avec des collectionneurs, des familles, des spécialistes de l'artiste. Chacune est revendiqué comme un moment important. Quand on vous parliez de Jean-René Gauguin, bon là il était quand même servi par un nom célèbre, mais je pense à un artiste comme Francis Arburger qui était quelqu'un de totalement oublié, mais qui nous permettait de raconter aussi toute cette histoire des spoliations des artistes et des familles juives pendant l'occupation. C'est des éléments importants qu'aujourd'hui la famille de Rana Orloff ait accepté de déposer chez nous des œuvres importantes, notamment le portrait d'Ida Chagall, qui est une œuvre à la fois magnifique et qui raconte aussi cette histoire de la spoliation, apporte aussi une émotion qu'on est, on est très heureux et très fiers de partager avec tout le monde. Voilà, quand on fait Picasso, quand on fait Chagall, on a aussi fait des expositions qui étaient des expositions inattendues. La première fois qu'on montrait les céramiques, puis les sculptures de Chagall. Donc on n'est pas non plus dans des expositions confortables. Et en même temps, c'est formidable que ces grands noms, ces têtes d'affiche, nous aide à faire connaître des artistes qui sont restés un peu sur le côté de l'histoire de l'art.
Quel langage commun vous avez établi avec les artistes présents dans les collections permanentes du musée Hervé Di Rosa ?
Il y avait déjà un travail à une autre exposition à la piscine, qui parle des disparus de Bayeux. Moi, j'ai pas vraiment. C'est, comme je vous dis, c'est la commissaire qui a fait tous les choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Bruno Godichon et son équipe à la piscine fabriquent les expositions et les inventent cette interface pour les connecter à un public de néophytes. Moi, c'est vraiment ma passion. Hein. J'ai ouvert ce musée à 7. On faisait le vernissage de Kinshasa Chronique hier soir, notre exposition pour l'hiver. C'est vraiment parce que moi, je souffre. Je viens d'une génération où je souffre de cet ostracisme. Même en étant artiste, on voit souvent les mêmes gens qui viennent à nos vernissages, les mêmes personnes, spécialistes, amateurs, passionnés, parce que les gens d'où je viens, mes parents n'osaient pas rentrer dans une galerie ou un centre d'art, même si c'est gratuit. Et la piscine et les œuvres qui sont présentes, et surtout comment elles sont présentes, sont accessibles à tous, au plus grand nombre. C'est vrai qu'on va pas, n'importe qui ne va pas réfléchir sur l'atelier de Bouchard, par exemple. Bon, il y a plein de choses que j'ai apprises. Et quand on fait une exposition, et au début, je dois vous dire que j'étais assez un peu gêné d'exposer en même temps que Picasso et Jean Cometti, je me suis assez fait allumer là-dessus. Vous voyez, il faut quand même du courage pour ça, parce qu'il ne vous le dira pas qu'il est courageux. Mais moi, je sais comment ça se passe. Je suis président d'une association qui dirige un musée. Je travaille avec le ministère de la Culture. Et donc, je sais qu'il faut être très, très courageux avec les maires, avec les puissances territoriales. Et je sais que la place de Bruno n'est pas facile et qui défend une idée, ce que d'habitude on ne défend pas dans les musées. Dans les musées, on donne à voir.
Et puis il y a un courage aussi de faire venir un artiste du Sud à l'occasion de la rouverture du musée du Nord.
Ça, je ne voulais pas le dire, mais c'est vrai que je pense qu'il a dû être très critiqué pour prendre mon travail, parce que aussi, cette histoire d'artisanat aussi, c'est intéressant, cette histoire d'artisanat. Moi, je viens des années 80 où c'était honni, la poterie, le macramé, vous voyez, d'aller dans les beaux-arts, c'était interdit, même la gravure déjà. Moi, j'étais un passionné d'édition, c'était déjà mal vu, la lithographie, tout ça. Et on a commencé dans l'adversité, même au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est la grande mode, tout le monde fait de la céramique et utilise des artisans et collabore avec et utilise ces techniques-là. Mais c'était pas évident. Et c'est beau de voir les céramiques en même temps que les grandes sculptures de Bourdelle et tout ça. C'est vraiment. Et le lieu, vraiment, moi, comme je vous dis, c'est une exposition, j'ai presque rien eu à faire. C'est la première fois de ma vie où je me suis laissé entraîner. Parfois, je disais à Sylvette Godichon, la commissaire, j'ai l'impression d'être comme Picasso et Jean Cometti, j'ai l'impression d'être mort et de regarder ce qu'on fait de mon travail. Et d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont mieux fait que ce que je l'aurais fait. Parce que souvent, un artiste n'a pas le regard et le recul, vous voyez, parce qu'il y a 20 ans de travail qui est présenté, hein, puisque mais souvent, on n'a pas le recul. Et là, je dois dire que j'ai été vraiment agréablement surpris. Et c'est vrai qu'ils avaient raison. Ça fonctionne avec l'exposition sur Picasso, qui est une exposition très spécifique sur cet homme à la chèvre. L'exposition sur Jean Cometti aussi, qui est très spécifique.
Au mouton,
hein, à la chèvre. Parce que je viens de voir ce matin une photo de Picasso avec une chèvre. Pardonne-moi. Donc, c'est vrai que ça fonctionne mal. J'avais des doutes, hein, je dois vous dire, au début. Mais c'est vrai que ça fonctionne formidablement bien. Et surtout quand on voit les visiteurs, quoi. Parce que quand on fait une exposition dans un musée, c'est pour les visiteurs. On oublie ça beaucoup à Paris, souvent. Souvent, on fait, d'ailleurs, moi-même, souvent, on fait des expositions un peu pour entre soi, vous voyez, dans l'art contemporain. Là, c'est pas le cas et c'est très agréable et très fort.
Alors, un mot, puisque vous venez d'ouvrir encore ce chapitre, celui de la démocratisation culturelle, de l'ouverture du musée, de la piscine de Roubaix, Isabelle Manca, à un public de néophytes. Ça, c'est l'un de vos grands engagements aussi, Bruno Godichon, faire de ce lieu à la fois un lieu d'art, mais aussi un lieu pédagogique où tous les publics peuvent avoir accès à ces œuvres et comprendre ce qui s'y joue aujourd'hui. C'est aussi ce qui vous a marqué, Isabelle Manca.
Je crois que ça a été un peu le cœur du réacteur du projet quand vous êtes arrivée, d'ailleurs, la médiation. Mm-hmm. Et ça a fait des émules dans pas mal de musées. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore d'autres projets, d'autres lieux qui sont créés.
Alors, on n'est pas les seuls, on n'était pas les premiers. Mais c'est vrai que le projet culturel, au départ, celui sur lequel finalement le chantier s'est construit, c'était construire un musée solidaire. Donc, ça reste pour nous une base extrêmement importante. En occupant le site de l'ancienne piscine de Roubaix, on a aussi mis nos pas dans ceux de Jean Lebas, le maire de Roubaix, ministre du Front Populaire. Et il y a aussi tout cet idéal autour de ce que Jean Zay a défendu pendant le Front Populaire, justement sur l'ouverture de la culture à tous. C'est dans nos gènes de façon très très forte. Et puis enfin, la qualité aussi est fondamentale. C'est-à-dire, le drame aurait été de faire de la diffusion à bon marché. Et quelque part, ce musée, c'est une revanche sur le sort pour Roubaix. C'est-à-dire, voilà, une ville dont les enfants, pendant des générations et des générations, n'ont pas eu de contact avec l'œuvre d'art. Et c'était important pour nous qu'on leur propose des rendez-vous, des rencontres avec les meilleurs. Alors, Picasso, Chagall, Camille Claudel, Degas et Hervé Di Rosa. Voilà, c'est un élément très important.
Mais cette philosophie-là, ça fait aussi une politique d'acquisition?
Oui, parce que il y a un parcours dans le musée. C'est-à-dire que quand on a eu la chance, c'est une chance en fait de recréer le musée. Donc on a pu repenser les choses et donner des axes de priorité. Et aujourd'hui, les acquisitions, y compris même les donations qu'on accepte, elles se font parce qu'elles intègrent un esprit. Il n'y a pas un projet qui soit monté à la piscine, que ce soit pour les collections permanentes ou pour les expositions temporaires, pour lesquelles on ne pense pas à la façon dont elle va être réceptionnée par les publics, parce qu'on est un musée qui a des publics traditionnels et des publics beaucoup plus inhabituels dans le monde des musées, notamment ceux qu'ont les jeunes publics et puis le public associatif qu'on fait venir avec l'aide d'une formidable société d'amis de musée. Et c'est important pour nous que sans que ça soit lourd, pédagogique au sens scolaire du terme, c'est important pour nous que la visite du musée soit une expérience et que ceux qui la font se souviennent de quelque chose en sortant.
Alors parmi ces donations que vous avez choisi d'accepter, il y a celle de la famille d'Henri Bouchard, la famille du sculpteur, qui avait voulu faire don de ce musée parisien et de ce qu'il y avait là-bas à la ville de Paris, qui n'en a pas voulu. C'est donc Roubaix, vous, qui avez fait le choix de l'accueillir. La question va être effectivement pourquoi. Mmh. Et vous avez là, pour se faire reconstituer l'atelier parisien du sculpteur, celui qu'il avait dans le 16e arrondissement, dans Intramuros, en fait.
Alors, c'est une affaire évidemment complexe, encore plus complexe qu'on pouvait nous l'imaginer au départ, parce que si l'œuvre d'Henri Bouchard ne pose pas de problème idéologique, le parcours personnel de l'artiste n'est pas sans tache d'ombre. Hein. Donc, il a pris la présidence, enfin, il a été élu président du Salon des artistes français en 1940, qui était la principale association d'artistes de l'époque. Plusieurs dizaines de milliers d'artistes y étaient adhérents. Et c'est à ce titre-là, et au titre de professeur de sculpture à l'École des Beaux-Arts, qu'il a été invité à participer au voyage de propagande collaborationniste en Allemagne en octobre 41. Il a accepté cette invitation. Ils étaient 12 artistes. C'est pas le plus célèbre, hein. Van Dongen, De Rhin, Vlaminck faisaient partie du même wagon, si je puis dire. Et il a aggravé son cas en février 42, en signant un article dans l'Illustration qui donne quand même un récit très flatteur de ce voyage, et dans lequel il dit ce qu'on lui a montré, c'est-à-dire ces grands ateliers de sculpture de monuments publics que le Troisième Reich avait fait bâtir pour ses sculpteurs de propagande, et qui évidemment faisait rêver un artiste qui toute sa vie a pensé que la sculpture de monuments publics était le grand genre de la sculpture. Il avait aussi était convaincu qu'il pourrait faire libérer les artistes et les étudiants de l'École des Beaux-Arts qui étaient prisonniers en Allemagne. C'était un peu la monnaie d'échange promise qui n'a d'ailleurs pas été tenue. Il a aussi aggravé son cas, pour tout dire, en faisant partie, comme beaucoup, beaucoup d'autres, du comité d'honneur de l'exposition Arnaud Brecker en 1942 à Paris. Il a été traduit devant le comité d'épuration, qui n'était pas un tribunal, mais un comité corporatiste d'artistes, devant Picasso.
Tout ça vous convient un homme, mais alors voilà. Pourquoi aujourd'hui avoir accepté cette donation? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là que la ville de Paris a refusé.
Alors, je ne sais pas, vous répondez. Non, je pense que la question administrative était assez complexe. Le musée, les collections étaient musées de France, donc inaliénables. Le bâtiment, lui, ne l'était pas. Et au bout d'un moment, effectivement, les enfants d'Henri Bouchard voulait régler cette question avant leur décès. Et l'Institut National d'Histoire de l'Art, qui est la haute autorité en histoire de l'art en France, souhaitait absolument que cet atelier unique soit préservé. Nous, on était en train de réfléchir à un projet de reconstitution abstraite. Et voilà, en fait, l'atelier est venu pour être un vrai atelier dans le parcours.
Vous y êtes allé dans cet atelier, Hervé Di Rosa?
Ah oui, là, et puis j'ai découvert ça, j'ai découvert l'histoire, et j'ai compris pourquoi l'exposition Picasso était autour de l'homme au mouton, puisque cette pièce a été faite par Picasso en réaction à l'exposition d'Arnaud Breker en 1942, je pense.
Oui, avril, juillet.
Pour dire que la statuaire, la sculpture monumentale n'appartenait pas qu'aux fascistes. Et c'est pas mal, en plus d'évoquer cette idée de l'atelier de Bouchard aujourd'hui. Vous savez, sur votre antenne, hier au Ventir, on parle beaucoup de. On retrace maintenant toute la vie des artistes. Est-ce que Woody Allen, on doit revoir ses films? Est-ce que lui, on doit revoir ses films? Est-ce que lui, on peut lire ses livres, etc.? Moi, c'est une question qui m'a toujours beaucoup intéressé. Quand on pense à Ezra Pound ou au peintre futuriste, par exemple, il y a tous ces rapports-là. Et c'est très malin, cette exposition de Picasso, et avec en même temps que de voir l'atelier de Bouchard. C'est très impressionnant. Mais c'est vrai, tout ce que j'aime pas les sculptures, bien sûr. Et moi, j'aime à peine Maillol et Bourdelle, ça passe à peine. Mais moi, tout ce fait 19e siècle, le musée d'Orsay, vous voyez, c'est pas mon musée favori. À part la piscine.
Ceci dit, l'exposition Picasso et l'exposition de Giacometti ne sont pas non plus des alibis, mais c'est juste important de rappeler au moment où le musée s'ouvre avec cet atelier qui est très prégnant dans le parcours, de rappeler que d'abord que tout le monde n'a pas fait le même choix et que de toute façon la question de la sculpture de monument public est intimement liée à la question du politique.
Oui, il y a des choses formidables dans cette reconstitution d'atelier, ces fameux panneaux de bois cloutés grâce auxquels ils réalisaient les agrandissements, puisqu'on n'avait pas de projecteur ni rien, c'était des clous, quoi. On mettait des fils entre et on pouvait faire les agrandissements en trois dimensions. C'est que la 3D, mais à la main, vous voyez, c'est assez impressionnant de voir cet instrument.
Isabelle Manca, le mot de la fin est pour vous. Vous pouvez choisir de poser une dernière question à Bruno Godichon ou à Hervé Di Rosa.
Ce sera peut-être pour Bruno Godichon. On parlait d'un nouvel espace qui a fait un peu polémique de manière exagérée et en faisant un peu un faux procès, à mon sens, à la piscine. Mais il y a un autre espace qui est peut-être plus consensuel et qui trouve tout à fait sa place, je trouve, c'est le nouvel espace sur l'histoire de Roubaix. Pourquoi est-ce que c'était une volonté de créer ce lieu? Et pour vous, quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que finalement le musée est une sorte d'ambassadeur aujourd'hui de... En quelques mots, s'il vous plaît.
Oui. En fait, bon, d'abord, c'était pour présenter une œuvre évidemment importante dans tous les sens du terme, parce qu'elle fait 6 mètres par 13, qui est le panorama de l'expo de 1911. Et puis, c'est toujours important. La naissance de la piscine en 2001, ça a été le début d'un retricotage entre les habitants de la ville et le patrimoine de la cité. Et aujourd'hui, la piscine, c'est aussi un ambassadeur de la ville, et c'est important que les visiteurs touristes, qui viennent chaque année nombreux, aillent plus loin dans la découverte de cette ville qui a vraiment un patrimoine formidable à montrer.
Merci beaucoup à vous Bruno Godichon, merci à vous Isabelle Manca d'avoir participé à cette émission à mes côtés. On peut lire le magazine L'Œil dans lequel vous consacrez un article à cette rouverture de la piscine de Roubaix. Pour en savoir plus, merci à vous Hervé Di Rosa. Donc on rappelle donc Kinshasa Chronique.
Oui, qui a ouvert au Musée international des arts modestes à 7. Je fais un peu de
voilà.
Publicité
pour le Sud.
On est très long, Roubaix beaucoup plus près. Mais je conseille à tout le monde, il y a 71 artistes de Kinshasa et peu vu. Et certains des scènes émergentes qu'on n'a pas vues à Paris lors de nombreuses expositions qu'il y a eu sur l'art africain contemporain.
Voilà, ça c'est pour ceux qui vont à 7 et pour ceux qui vont à Roubaix. Donc, ouverture de la piscine avec 5 expositions, dont la vôtre, Hervé Di Rosa, l'œuvre au monde. Et c'est à voir jusqu'au 20 janvier. Merci à tous.
Merci à vous.